La solution qu'il a trouvée était très intelligente. C'était de réceptionner l'eau de la source de Guillon, à la source donc, et au lieu de la faire jaillir sur place, la faire passer par un tunnel qui existe encore, que vous pouvez traverser d'ailleurs, je pense, à pied, mais Christiane le confirmera certainement. Eh bien, vous pouvez donc marcher une partie de ce tunnel à Jérusalem. Et ce tunnel conduisait l'eau, c'est un aqueduc, ça s'appelle pas un tunnel d'ailleurs, un aqueduc, eh bien, conduisait l'eau de la source de Guillon jusqu'à l'intérieur de la ville de Jérusalem. De sorte à ce que même lors du siège, lors d'un siège éventuel de Jérusalem, eh bien, les habitants pouvaient recevoir l'eau, pouvaient avoir l'eau de la source de Guillon. Et les ennemis qui étaient autour ne se rendaient même pas compte qu'il y avait une source. C'était ça l'astuce, c'était ça la stratégie. Et je trouve que c'est assez important de comprendre ce que c'est que ce réservoir de Siloé. Alors voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette eau coulait jusque dans le réservoir de Siloé qui se trouve à Jérusalem. Et donc, ici, Jésus, vous lirez dans Jean chapitre 9, va mettre de la boue sur les yeux de l'aveugle. Aucune utilité apparente de faire ça. Jésus pouvait guérir l'aveugle simplement par une parole, n'est-ce pas? Mais il a mis de la boue. Alors, bien sûr, il avait ses raisons. Une des raisons était probablement qu'il voulait que l'aveugle prenne du temps à aller jusqu'au réservoir de Siloé, qu'il soit guéri donc dans un délai suffisant pour que Jésus puisse s'éclipser. Parce que qu'est-ce qui arrivait quand les aveugles étaient guéris? C'est qu'ils disaient « je suis guéri », ils commençaient à crier ça partout. Et les religieux de l'époque, n'est-ce pas, les pharisiens étaient très mécontents et ils disaient, ils menaient tout de suite une enquête, c'est ça, et Jésus avait des ennuis parce qu'il avait guéri quelqu'un. Au lieu de se réjouir, les religieux de l'époque commençaient à critiquer, à avoir un défaut. Ah, il y a un problème là, quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas orthodoxe, quelque chose qui ne va pas selon notre loi, selon notre compréhension de la loi de Dieu, etc. Ça ne va pas, ce n'est pas cohérent. Donc probablement c'était simplement pour ça que Jésus a dit, bon voilà, le temps qu'il aille au réservoir de Siloé, qu'il mette de l'eau pour se laver, il sera guéri à ce moment-là, et moi j'aurai disparu de la foule. Peut-être c'était pour ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? C'est que c'était le réservoir de Siloé. Il nous est dit dans le chapitre 9 de Jean que le Siloé veut dire envoyé. Et c'est à ce réservoir-là que Jésus a demandé à cet aveugle, d'aller à ce réservoir-là pour se laver les yeux. Et c'est ce que nous demandons, et je fais le lien maintenant avec les enfants, puisqu'on a fait la présentation des enfants. C'est vrai qu'on doit demander aux enfants, on doit demander aux adultes d'aller voir, d'aller retrouver ce qu'ils ont entendu, dans ce réservoir où ils ont recueilli l'eau qu'ils ont reçue. Parce que le rôle de l'Église, le rôle des parents, c'est un rôle, comme la loi d'ailleurs, extérieur à l'individu. C'est-à-dire que le rôle des parents ou de l'Église, c'est de pouvoir prendre l'eau de la source et de la faire acheminer vers le cœur des gens, des hommes et des femmes, via un aqueduc et dans un réservoir, pour qu'ils puissent, après avoir entendu, ils puissent recevoir en quelque sorte cette eau à l'intérieur de leur vie. Et je sais que les paroles qui ont été prononcées à bien des reprises dans les églises, dans le monde entier, eh bien, a quelquefois fait de l'effet des années, des décennies après. Il y a des gens qui ont entendu quelque chose en tant qu'enfant et qui plus tard sont allés à ce réservoir où était stockée cette information. Ils se sont souvenus à un moment donné, ils sont allés retourner vers cette parole qui était à l'intérieur. Et ils se sont souvenus, et ça fait une œuvre dans leur vie, ça les a désaltérés. Ça a ouvert leurs yeux, ça a permis, comme cet aveugle, de pouvoir se laver les yeux et de pouvoir voir enfin la vérité, la lumière, la réalité. Mais c'est ça que peut faire l'Église. Et il y a là quelque chose de très insatisfaisant, de très insuffisant. Parce que l'eau d'un réservoir, ça n'est pas de l'eau de la source. C'est l'eau qui vient de la source à l'origine. Mais ce n'est pas une eau pure. Elle a été souillée par l'aqueduc. elle a été aussi partiellement stagnante, même si c'est renouvelé, elle a été stagnante dans le réservoir de Siloé. Et ça veut dire que l'eau n'est pas parfaitement ce qu'elle devrait être si on la prenait à la source. Et le message de l'Évangile, contrairement au message de l'Ancien Testament, donc l'Évangile se trouve dans le Nouveau Testament, c'est de dire, le message de Jésus-Christ, c'est que cette source peut venir en vous, peut jaillir de votre vie, de votre être intérieur. Et ce ne sera pas un réservoir que vous allez puiser. Ce n'est pas de l'eau qui provient de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu, que vous avez entendu, que vous avez gardé en mémoire, vers lequel vous devez aller constamment. Mais l'Évangile, c'est une puissance, nous dit la Bible, une puissance et c'est une eau vive qui jaillit du cœur des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus-Christ. Et cette eau qui jaillit va désaltérer, va donner de l'eau pure qui va désaltérer, qui va ouvrir les yeux. C'est ça le message de l'Évangile. Le message de l'Ancien Testament, c'était qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de source d'eau, mais que la source venait de l'extérieur, donc des 10 commandements, de la loi, de l'obéissance à Dieu, de ce que les prophètes ont annoncé, de ce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont pu annoncer dans l'Ancien Testament. Et il fallait faire acheminer cette parole, n'est-ce pas? C'était dans l'enseignement de Dieu vis-à-vis des pères et des mères, d'enseigner à leurs enfants, n'est-ce pas, la crainte de Dieu, les commandements de Dieu. Et c'était cet aqueduc qu'il fallait faire venir l'eau via cet aqueduc dans la vie des enfants. Et tout ce que ces enfants pouvaient avoir, c'était ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient reçu de l'extérieur. Mais il y a quelque chose, une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est précisément qu'on peut rencontrer Jésus-Christ comme cet aveugle l'a rencontré. Et que dans la vie de cet aveugle, il n'a pas seulement eu l'épisode du réservoir de Siloé, il a eu cette rencontre et cette révélation avec Jésus-Christ qui a changé sa vie, qui a transformé sa vie, qui a fait que de sa vie a pu commencer à avoir une source d'eau vive qui jaillit de lui. Vous savez, la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, donc avant d'arriver dans Jean chapitre 9, si vous lisez l'Évangile de Jean, vous arriverez sur le passage de la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Et cette femme, eh bien, elle aussi allait vers la source d'eau que ses pères lui avaient donnée. Elle a parlé de ce puits, parce que c'était une femme qui allait chercher tout banalement, comme tous les jours, de l'eau au puits. Et elle allait toujours à ce puits que son père, son ancêtre, Jacob, elle n'a pas dit Israël parce que c'était une Samaritaine, et donc elle n'osait pas dire que c'était son père Israël. Mais Jacob, vous savez, était appelé par Dieu Israël, c'est lui le père d'Israël. Mais elle a dit, notre père Jacob a construit ce puits. Et c'est vers ce puits, vers ce que son père Jacob, son ancêtre Jacob, lui avait transmis, qu'elle pouvait aller puiser. C'était là qu'était sa source d'eau. Mais cette eau était bonne, certainement, à boire. Elle était utile pour les soins domestiques. Mais elle ne pouvait pas donner ce que cette femme recherchait réellement. Et Jésus lui a parlé d'une source d'eau vive. Il lui a dit qu'il était la source d'eau vive, qu'il pouvait lui donner de l'eau qui jaillirait, n'est-ce pas, de son être, une eau qu'elle pourrait boire et qui enlèverait les soifs. Et cette eau vive, c'est seulement Jésus-Christ, c'est la rencontre simplement avec Jésus-Christ qui peut faire ça. Et cette femme est allée, quand elle a rencontré Jésus d'une manière subite, elle a été changée immédiatement par cette rencontre avec Jésus. Et c'est ce qui se passe inévitablement lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Il y a une transformation de vie. Il y a quelque chose qui dit, ça y est, maintenant je sais. Et le fait de pouvoir dire je sais avec puissance, avec autorité, n'est-ce pas? Ça témoigne qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette femme a laissé sa cruche, elle a couru au village, elle a dit, j'ai rencontré celui qui m'a dit ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Et elle avait rencontré le Seigneur. Et les gens ont couru, n'est-ce pas, parce qu'ils ont entendu le témoignage, ils ont Ils ont vu que quelque chose était passé, elle avait transmis, disons, de cette eau, un peu de cette eau dans leur vie, dans leur connaissance, dans leur réservoir. Mais elle leur a dit cela, et parce qu'elle leur a dit ça, ils sont venus. Et ils ont dit à cette femme, on ne croit pas à cause de ce que tu as dit. De toute façon, ils n'avaient pas, à mon avis, une très bonne estime de cette femme. C'était le genre de personne que Jésus sauvait, n'est-ce pas? Les gens qui étaient méprisés, qui n'étaient pas aimés. Eh bien, c'est surtout cela, vers cela qu'il allait. Et ils ont dit, ben, c'est plus à cause de ce que tu as dit, c'est parce que nous l'avons entendu, nous l'avons rencontré nous-mêmes, que nous savons maintenant qu'il est le Messie. Et cette expérience ce matin est pour vous et moi. Cette rencontre avec Jésus-Christ, elle est pour vous et elle est pour moi ce matin. On peut rencontrer Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on va le voir devant soi. Saul de Tarse a eu cette lumière qui est venue frapper ses yeux juste sur le chemin de Damas, alors que c'était un été intégriste, alors que c'était un homme qui massacrait les chrétiens, c'était un ennemi de Dieu, alors qu'il se croyait très juste, comme beaucoup de pharisiens de l'époque. Et Dieu l'a interpellé sur la route de Damas. Il est devenu aveugle et il a retrouvé la vue trois jours plus tard. Et il est devenu l'apôtre Paul, qui a bouleversé l'Église, qui a fondé l'Église, qui a bouleversé la vie d'hommes et de femmes et qui bouleverse la vie d'hommes et de femmes encore aujourd'hui. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans une vie. C'est une œuvre qui régénère de la tête aux pieds. C'est une œuvre qui fait que Saul de Tarse pouvait être transformé en l'espace de trois jours en un homme de Dieu qui pouvait prêcher avec puissance la parole de Dieu parce que l'Esprit-Saint l'avait fait passer de cette tradition religieuse à cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Mais ce qu'il y a dans les histoires de sources que nous devons, pour laquelle nous devons construire des aqueducs qui acheminent l'eau jusqu'à la vie des gens, c'est que les sources sont souvent souillées ou sont obstruées à la base. C'est-à-dire que on vit dans un monde, on vit dans une société où on essaye de souiller la source ou empêcher l'eau de jaillir à la source. C'est la première raison pour laquelle de moins en moins d'enfants reçoivent quelque chose dans le réservoir de siloé de leur vie. C'est que il y a beaucoup de choses qui étouffent. On étouffe. On leur enseigne une foi extraordinaire, n'est-ce pas, dans les écoles, très jeunes. On leur enseigne que Dieu n'existe pas. C'est les médias qui transmettent ce message. C'est le monde intellectuel qui transmet que Dieu n'existe pas. Nous savons que Dieu n'existe pas. Et le message étant répété, 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 presque jour après jour, eh bien, les personnes se disent « Dieu n'existe pas, donc. C'est tellement courant, c'est évident, Dieu n'existe pas. » Vous savez que ce procédé, eh bien, a été utilisé dans l'histoire, dans bien des situations, et ça influe la pensée des gens. Ça modifie la pensée de toute une société. En l'histoire de quelques années, quelques décennies, une société entière peut changer, peut aller dans une direction ou une autre. Et ça, c'est un drame, n'est-ce pas? C'est un drame, mais c'est un drame si la source vient de l'extérieur. Parce que tout ce que les hommes et les femmes peuvent faire pour s'opposer à l'Évangile, c'est de boucher les sources extérieures. Mais ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit contre ce miracle de l'Évangile qui fait naître une source à l'intérieur des vies. Et cela, ils ne peuvent pas y toucher. Cela devient impossible pour eux de toucher à cette puissance de l'Évangile qui sauve des hommes et des femmes, des gens qui étaient isolés totalement, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile, mais qui ont été en contact avec le texte de l'Évangile juste à un moment donné, et ils ont été bouleversés par ce message. Et il y a une source qui a commencé à jaillir de leur vie, et cette source, on ne pouvait pas la boucher, on ne pouvait pas l'obstruer, on ne pouvait pas la souiller, on ne pouvait pas empêcher son action, parce qu'elle était à l'intérieur de la vie de ces personnes. Alors, certains régimes ont essayé de maltraiter les gens qui connaissaient ce genre d'expérience. Ils ont essayé de torturer, essayé de faire quelque chose pour atteindre cette source. Et en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fortifié les hommes et les femmes concernés dans le fait de chercher davantage à ce que cette source à l'intérieur puisse se manifester. C'est la première chose qui peut arriver quand on a une eau qui vient de l'extérieur. Un deuxième danger, évidemment, c'est que le canal soit bouché. C'est une deuxième raison qui peut faire que l'eau n'arrive pas. Et les choses de la vie peuvent faire qu'il y a tout un tas de choses qui s'accumulent dans l'aqueduc. Et on regarde, la source est toujours là, la source est toujours active. La déviation de l'eau est toujours bien faite à l'origine, mais il y a quelque chose qui bloque dans l'aqueduc. Il y a des choses qui se sont accumulées, n'est-ce pas, au cours des années, et ça ne passe plus. Et là aussi, il peut y avoir, bien sûr, beaucoup de choses que vous laissez accumuler ou que les enfants vont laisser accumuler. Les soucis, les responsabilités, les études, le fait de devoir lutter pour pouvoir avoir la tête hors de l'eau dans la vie, eh bien, ça va accumuler des choses dans l'aqueduc, et ce qui fait que l'eau ne viendra plus, n'est-ce pas, à l'intérieur, et que l'eau qui restait d'avant, bien, va stagner, et elle va être souillée, elle va être nuisible plutôt que bénéfique. C'est un deuxième problème potentiel. Le troisième problème potentiel, c'est le réservoir lui-même. Vous pouvez lire dans Jérémie chapitre 2 que Dieu dit que le peuple a commis un double péché parce qu'il a rejeté Dieu qui est la source d'eau vive. Entendez bien cette expression de l'Ancien Testament, la source d'eau vive. Il a rejeté Dieu qui est la source d'eau vive et ils ont remplacé Dieu par des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et voilà un problème, n'est-ce pas ? C'est que dans beaucoup de situations, le problème est au niveau du réservoir, c'est-à-dire qu'elle ne retient pas l'eau. On laisse échapper, on écoute la parole, on entend des choses, mais on n'y prête aucune attention. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'eau ne reste pas, qu'on ne peut plus s'abreuver de cette eau, on ne peut plus se laver, n'est-ce pas, cette eau, parce que le réservoir est crevassé, parce que le réservoir ne retient pas l'eau. Mais j'aimerais faire une analogie, puisque dans le cas de la cécité, de l'aveuglement, il y a trois sources d'aveuglement. Il y a la rétine, un problème avec la rétine qui est la source extérieure, le récepteur extérieur. Il y a un problème potentiel au niveau du nerf optique, c'est le nerf qui part de la rétine, de l'œil derrière l'œil, et qui va jusqu'à l'arrière du cerveau, où il va envoyer le message réceptionné par la rétine. Il va envoyer ce message sous forme d'un flux nerveux et il y a la structure qui est le réservoir, là où les informations sont stockées, les informations visuelles sont stockées, qui se trouvent à l'arrière du cerveau, dans le lobe occipital. Et c'est cette analogie qui est frappante, n'est-ce pas, entre le système de la source du réservoir de Siloé et le problème de l'aveuglement. Et l'aveuglement, n'est-ce pas, a le même problème, le même type de problème. Là, je parle de l'aveuglement spirituel, a le même type de problème que peut avoir une source. Mais je ne vais pas trop développer cela. Ce que je vais dire, c'est que Jésus, lorsqu'il a guéri cet aveugle, lorsque cet aveugle a été guéri, il est allé le retrouver après. Et il lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu ? J'aime beaucoup les paroles de Jésus. C'est très frappant. Vous savez qu'il y a des versions de la Bible qui mettent en rouge donc les paroles de Jésus. Et je trouve que c'est une bonne idée. Parce que ça met en emphase les paroles de Jésus. Crois-tu au Fils de Dieu ? Moi, si j'étais allé voir cet aveugle, si Jésus m'avait dit, vas-y, va parler à cet aveugle que je viens de guérir, il est allé au réservoir de Siloé, tu le trouveras dans le coin, eh bien, j'aurais commencé à dire, bon, il faut commencer à le convaincre, il faut commencer à lui expliquer ceci et cela, que tu vois, tu étais comme ça, maintenant si tu es guéri, c'est quand même, il faut te rendre compte que c'est quand même extraordinaire, que c'est un miracle. Et on aurait commencé à raisonner, on commençait à faire un long discours. Jésus lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu ? Et c'est la question qu'il nous pose ce matin. Est-ce que tu crois en Jésus ? Évidemment, il faut travailler le sens de croire dans l'évangile de Jean. Il faut voir que ce n'est pas juste « oui, je crois, oui, je crois, je crois qu'il est venu sur la terre, oui, je crois ». Il y a beaucoup de gens qui croient. La Bible nous dit même que les démons croient. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le sens commun de croire? Mais ce que Jésus voulait lui dire, c'est quelque chose de plus fort. Est-ce que tu crois? Et l'aveugle était très honnête, ou l'ex-aveugle, parce qu'il n'était plus aveugle quand il a répondu ça, il lui a dit, mais c'est qui? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie? Je ne le connais pas. Voilà quelque chose de très honnête, je ne le connais pas. Cet aveugle a reconnu que je ne le connais pas. Il a reconnu que celui qui était devant lui, eh bien, était en train de lui parler de quelqu'un, le Fils de Dieu, mais je ne le connais pas. Voilà quelque chose de très honnête. Jésus n'a pas dit, mais comment ça se fait que tu ne le connais pas? Enfin, réfléchis un peu, tu devrais quand même deviner qui c'est. Non, il est apprécié, je suis sûr, l'honnêteté, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Et c'est peut-être l'état dans lequel on est ce matin, où tout ce qu'on peut dire, c'est dire, je ne le connais pas. Parce que je sais que si je le connaissais, ma vie serait transformée. Si je le connaissais, il y aurait quelque chose de plus extraordinaire qu'une guérison qui se serait produite dans ma vie un jour ou l'autre. Il y aurait quelque chose de plus profond qui se passerait. Et cet homme a dit, je ne le connais pas. Et c'est très honnête. C'est très honnête quand des chrétiens, des gens qui ont été reconnus comme chrétiens pendant des années, disent, je dois avouer que je ne le connais pas. Je ne le connais pas vraiment. Je ne le connais pas comme je devrais le connaître. En tout cas, c'est ce qu'a dit cet homme. Et Jésus lui a dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et c'est là où il y a eu la révélation, n'est-ce pas? Comme avec la Samaritaine, avec juste quelques paroles, mais ce n'est pas les paroles verbales, ce n'est pas les sons qui sont sortis de la bouche de Jésus qui ont transformé la vie de cet aveugle, ou qui ont transformé dans Jean chapitre 4 la Samaritaine. C'est la puissance de Dieu. À ce moment-là, il se révèle. Et il se montre réellement tel qu'il est. Il montre sa puissance et il transforme la vie. N'est-ce pas? C'est incontournable. C'est impossible de dire après autre chose que Seigneur, je crois. Et c'est ce que l'aveugle a dit. Je crois, Seigneur. Il y a un célèbre académicien qui a eu le courage de témoigner, cet homme intelligent de l'Académie française qui a témoigné combien il était religieux avant et il est rentré un jour dans une église et il a dit qu'il a eu la révélation de Jésus-Christ dans cette église. Juste en rentrant, d'un seul coup est venu sur lui cette foi qui a transformé sa vie. Et cet homme qui était d'éducation catholique auparavant, qui avait donc connu tous les enseignements, qui avait reçu des sources extérieures, a découvert la personne de Jésus-Christ subitement, comme ça par révélation. Si vous lisez les pensées de Pascal, de Blaise Pascal, eh bien vous verrez, avant de commencer le livre, dans certaines versions en tout cas, ils mettent la révélation que Blaise Pascal a eue, cette rencontre avec Jésus-Christ qui a changé sa vie et qui a conduit sa vie par la suite. Combien d'hommes et de femmes sont transformés et peuvent témoigner de ça, parce que Jésus est le même que dans l'Évangile. Et donc cet aveugle, cet ancien aveugle a dit « Seigneur, je crois » et il se prosterna devant lui. Il y a quelque chose aussi qui fait que dans la rencontre avec Jésus-Christ, on se prosterne. On ne peut faire que ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui fait que toutes les barrières sociales, toutes les barrières culturelles, toutes les choses de notre éducation précisément qui nous ont dit « il faut te tenir droit, il faut te tenir debout, il ne faut pas te plier, il ne faut pas t'abaisser », n'est-ce pas? On apprend ça aux enfants très jeunes, n'est-ce pas? Il ne faut pas te laisser faire. Eh bien, il y a quelque chose qui est brisé, quelque chose qui disparaît au moment de la rencontre avec Jésus où on se prosterne et on le laisse agir dans notre vie. Et c'est là où cet aveugle a fait cette rencontre. Et le miracle, c'est que si avant il devait aller à la source de Siloé, si avant il devait chercher, peut-être quand il était petit, parce que c'est un aveugle de naissance, Peut-être que lorsqu'il était petit, il devait se souvenir de dire que Dieu est bon et que Dieu m'aime. Je l'ai entendu, ça, je le crois, parce que les enfants croient quand ils entendaient, comme c'était à l'époque, les enfants entendaient la parole de Dieu. Eh bien, peut-être qu'il allait à ce réservoir pour puiser de l'eau, il se consolait, n'est-ce pas? Il savait qu'il allait vivre une vie de mendiant, de rejeté, mais il se rassasia, enfin, il se désaltérait de cette eau, de réservoir de Siloé. Mais là, il y a eu le miracle qui s'est produit, c'est cette source qui a commencé à jaillir. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a ces prophéties qui ont été données, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs prédications, qu'il y aurait une source qui jaillirait de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Et je crois que c'est une prophétie qui concerne, pardonnez-moi si vous pensez différemment, je respecte totalement cela, et j'ai probablement tort, mais je pense moi-même que c'est une prophétie qui ne concerne pas Jérusalem en tant que ville. Je crois que c'est une prophétie qui concerne les hommes et les femmes qui rencontrent Jésus-Christ, qui deviennent en quelque sorte ce que la Bible appelle de manière imagée la nouvelle Jérusalem. Et celle-là, on est sûr qu'il y a une source d'eau, puisque c'est décrit ainsi dans l'Apocalypse, qu'il y a une source d'eau qui coule et un fleuve d'eau vive qui coule. Et c'est ça le miracle. C'est encore là le miracle décrit, n'est-ce pas? Et à mon avis, représenté dans cette guérison de cet aveugle dans Jean chapitre 9. Mais j'aimerais juste, pour terminer, aborder un aspect qui concerne un autre aveugle. Et cet aspect est très important parce que j'ai entendu quelqu'un, non pas ici, rassurez-vous, c'est pas que je vise quelqu'un du tout d'ici, j'ai entendu quelqu'un qui a fait la remarque très judicieuse mais astucieuse de dire, voilà, Saul de Tarse a eu cette révélation alors qu'il y s'y attendait pas. Cet aveugle s'est levé ce matin-là, comme tous les matins, alors qu'il s'y attendait pas, il a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu lui parler. La Samaritaine est allée puiser de l'eau et elle n'attendait pas de rencontrer cet homme, ce Messie, assis sur le puits ou sur le bord du puits. Donc, certaines personnes peuvent se dire, comme j'ai déjà entendu, eh bien, je dois juste attendre que Jésus vienne se révéler à moi. Mais on va raconter, je vais brièvement raconter un autre récit, parce que vous savez que Jésus est venu pour plein de choses sur la terre. Il est venu pour apporter l'évangile, pour mourir sur la croix, mais il est venu aussi pour guérir les aveugles. Sur la terre, il a guéri beaucoup d'aveugles. Et dans Luc chapitre 18, la fin de Luc chapitre 18, eh bien, il y a là le récit d'un autre aveugle qui était à l'entrée de la porte de Jéricho, une autre ville, et il mendiait. Et là, c'est étrange parce que Jésus est passé à côté, il ne lui a pas donné de pièces, de toute façon Jésus n'avait pas d'argent avec lui d'habitude. Je le sais, ce n'est pas que c'est écrit, mais quand on le connaît, Jésus-Christ, eh bien, on sait qu'il n'avait pas d'argent avec lui, n'est-ce pas? Parce que si vous lisez l'Évangile, vous voyez qu'il ne se préoccupait absolument pas de la nourriture et des achats que la société exige ou nécessite, les conditions de vie nécessitent. Et Jésus ne lui a rien donné. Il est passé outre. Il est passé, pourtant, c'était des aveugles qui faisaient beaucoup de bruit pour qu'on les remarque, n'est-ce pas? Et ils adoptent une intonation de voix qui fait fléchir les cœurs. Ils adoptent des positions qui supplient, n'est-ce pas, de l'aide. Et Jésus n'est pas intervenu. Bien sûr, Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais Jésus ne s'est pas approché. Dans Jean chapitre 9, il est dit que Jésus vit un aveugle. Mais ici, c'est cet aveugle qui le vit. Enfin, il ne l'a pas vu avec ses yeux parce qu'il était aveugle. Mais il a entendu qu'il y avait du bruit anormal. Ce n'est pas habituel ce qui se passe à Jéricho aujourd'hui. Il doit y avoir quelque chose. Alors c'est quoi? Un peu de distraction? Ou c'est quoi? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui vient. Et ça suffit. Parce que dans son réservoir, à l'intérieur, il avait entendu quelqu'un qui lui avait dit, tu sais, si un jour tu peux rencontrer Jésus, eh bien tu seras guéri. Il a entendu ça. s'est resté dans le réservoir de son cœur. Et immédiatement, il s'est levé et il a dit, je veux le voir. On a dit, tais-toi, ne te fais pas remarquer. Il est trop occupé, Jésus. Mais il a dit, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas eu la révélation de Jésus-Christ qui lui est venu comme cela. C'est un homme qui a crié vers Dieu, qui a demandé à Jésus, sauve-moi, aie pitié de moi. Et ce matin, c'est ce que vous pouvez faire. C'est ce que je peux faire. Si je veux davantage, si je veux connaître davantage de Jésus-Christ, si je veux que non seulement il me guérisse de l'aveuglement, mais qu'en plus, il me guérisse de tout ce qui me pèse, de tous les fardeaux, de tous les péchés qui m'obsèdent, qui me travaillent, eh bien, c'est cette attitude de crier vers Jésus, n'est-ce pas, aie pitié de moi, fils de Dieu, fils de David. Et Jésus était sensible à cette parole, parce qu'il est sensible quand quelqu'un crie. Et il s'est retourné et il a guéri cet aveugle. Et voilà la démarche de cet homme. Alors pour terminer, j'aimerais juste souligner deux points. C'est que dans Jean chapitre 9, les disciples ont dit concernant cet aveugle, c'est qui a péché ? C'est lui ou c'est ses parents ? Et quand on voit comment des gens sont dans le péché, dans le monde, dans la société, quand ils sont petits, on dit c'est la faute des parents, vu les conditions dans lesquelles ils l'ont élevé, il ne peut être qu'un vilain garçon, qu'une vilaine fille. On dit pauvre gosse, on s'apitoie, et quelques années passent, à peine une dizaine d'années, et l'enfant devient jeune homme, jeune femme ou adolescent. Et c'est là où on dit sale gosse, c'est à cause de lui, c'est de sa faute, il faut le condamner. Et Jésus n'est pas dans ce registre, il a dit c'est pas une question de ses parents qui ont péché ou de lui qui a péché. Il a dit c'est afin que les œuvres de mon Père soient manifestées. Et l'œuvre de Dieu principalement dans une vie, c'est pas de l'œuvre principale n'est pas de guérir physiquement. L'œuvre principale, c'est de faire naître cette source à l'intérieur de la vie. Vous lirez dans Jean chapitre 10, je crois que c'est Jean chapitre 10, qu'il a dit aux pharisiens quelque chose d'important. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Est-ce qu'on peut dire ça dans les églises ? Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, si nous n'avons pas l'œuvre de Dieu en nous, alors ne nous croyez pas. Et c'est ça qu'on devrait dire, n'est-ce pas ? Parce que l'œuvre de Dieu doit se faire dans la vie. L'œuvre de mettre cette source, de faire naître cette source à l'intérieur de nos vies, qui jaillit, qui désaltère non seulement notre personne, qui nous lave, mais qui désaltère et qui lave les autres personnes aussi. Et cette œuvre, eh bien, c'est l'œuvre du Père. C'est l'œuvre de mettre la lumière dans la vie, pas pour les yeux physiques, mais pour la vie spirituelle. C'est l'œuvre qui fait qu'on dit, Seigneur, je vois maintenant, je te rencontre, je te vois, je ne te voyais pas avant, mais maintenant, je te vois. Et c'est cette œuvre-là qui se manifeste, et c'est à cause de ces œuvres-là que vous devez croire. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie, de cette œuvre du Père que vous devez croire, et de dire, oui, je veux connaître. Qui est-il pour que je le connaisse ? Je dois avouer que je ne le connais pas. Et je veux ce matin le connaître. Que ce soit notre prière, que ce soit votre prière. Mais en tout cas, que Dieu fasse son œuvre dans nos vies, n'est-ce pas ? Et qu'il fasse son œuvre dans notre Église. Amen.